France Musique.
Et bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver cet après-midi sur France Musique en compagnie de mes deux invités, la violoniste Fanny Clamagiran et le pianiste Nathanaël Gouin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est bientôt l'heure du grand marathon Beethoven pour vous avec cette folle journée de Nantes qui commence demain, mercredi 29 janvier, pour courir, si je puis dire, jusqu'au dimanche 2 février. France Musique sera en direct de la folle journée ce week-end. Nathanaël Gouin, vous ouvrez l'événement demain soir avec la 24e sonate pour piano de Beethoven, cette sonate en deux mouvements qui se démarque un peu de ce que Beethoven a pu écrire avant. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathanaël Gouin? C'est une énigme, cette œuvre, pour l'interprète ou pas du tout? Vous vous sentez tout à fait à l'aise avec elle?
Tout Beethoven est une énigme, donc cette sonate en est un petit peu l'équation qui révèle, mais effectivement, je trouve qu'il y a quand même une équation à trouver là-dedans qui est assez difficile, et elle représente vraiment bien ce qu'on doit endurer en tant que pianiste pour gravir certains Everest.
Endurer. Non, le terme est fort.
C'est un cheminement, mais effectivement, elle commence fort avec cette sonate.
C'est souvent la sonate que l'on définit comme celle qui se rapproche le plus de Jean-Sébastien Bach. C'est quelque chose qui vous a frappé en l'interprétant?
Oui, complètement. D'ailleurs, j'ai écouté quelquefois la version de Glenn Gould qui s'y baigne un peu comme un poisson dans l'eau là-dedans. Et il y a quelque chose de très frappant quand il joue ça. Il y a des correspondances qu'on peut choisir d'utiliser, d'interpréter ou non, mais évidemment il y a un langage qui renvoie à Bach éminemment, c'est certain.
Et vous, Fanny Clamagiran, vous venez d'enregistrer le concerto pour violon de Beethoven. C'est un très bel album qui sort ce vendredi 31 janvier chez Mirare. C'est une sorte de consécration dans la vie d'un violoniste d'enregistrer l'unique concerto de Beethoven, non?
Ah, c'est quelque chose de très spécial, oui, c'est sûr. C'est un des chefs-d'œuvre, un monument de la musique absolument, mais aussi dans le répertoire pour violon. Et aussi, je rejoindrai ce que Nathanaël disait, c'est que c'est une musique, enfin surtout dans le concerto, qui peut être justement difficile à dompter, justement trouver l'essence même et enfin redonner cette beauté, cette pureté. Bon, vraiment dans le concerto en particulier, il y a une grande complexité.
Complexité technique. Qu'est-ce qui fait la particularité vraiment de cette œuvre par rapport à tous les autres concertos?
Oui, mais enfin, c'est une complexité au sens large du terme, pas seulement technique, parce que il y a des concertos qui sont certainement beaucoup plus virtuoses, mais justement parce que il faut retourner à l'essence même de la musique et justement trouver une liberté, une simplicité,
une intensité,
quelque chose de vrai en fait dans le discours, et c'est ça qui est le plus complexe, le plus difficile.
Thank you.
Allegro Manantropo, un extrait du premier mouvement du concerto pour violon en ré majeur de Beethoven, l'orchestre de chambre anglais dirigé par Ken David Mazur avec Fanny Clamagiran en soliste. Mon invité cet après-midi en compagnie du pianiste Nathanaël Gouin. Vous avez des versions de chevet de ce concerto, Fanny Clamagiran?
Oui, depuis tout le temps. Je pense que j'aime beaucoup la version de Grumio et puis aussi la version de Vengerov. Voilà, qui m'ont accompagnée depuis toujours.
Elle vous inspire?
Oui, elle m'inspire beaucoup, oui, parce qu'il y a une grande pureté, une grande vérité, dans le, une grande simplicité, enfin une fluidité et qui m'inspire et qui me fait comprendre que c'est dans ce sens-là que j'ai envie d'aller. Et finalement, au fur et à mesure des années, il y a un style qui s'est un petit peu imposé à moi naturellement, mm-hmm. C'est le cheminement aussi de chacun, voilà, mm-hmm. d'un interprète, l'expérience aussi du concert et puis de jouer aussi tout autre répertoire. Et donc finalement voilà, mais je suis toujours revenue à ces enregistrements là, à ces références si je peux dire, et puis mais après quand je travaille et quand j'enregistre je reste moi-même,
bien sûr.
Donc voilà, ça me convient bien.
Et Ken David Mazur, qui dirige l'orchestre de chambre anglais, il a un lien avec Kurt Mazur?
Ben oui, tout à fait, c'est son fils. En effet, oui. Et on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'Anne-Sophie Mutter.
Qui enregistrait d'ailleurs très jeune les concertos, le concerto pour violon de Beethoven avec Karajan.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc, Ken David a un festival à New York, le Chelsea Music Festival, et il m'avait invité pour une des saisons qui mettait en avant la France et le Japon, et j'étais artiste en résidence. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, humainement et musicalement aussi, et puis de là est née une grande amitié, on s'est très très bien entendu, et je suis revenue plusieurs fois, et puis voilà, on a eu envie d'avoir des projets ensemble et de pouvoir justement faire ce disque.
En tout cas, c'est un beau projet que vous nous proposez là. Et vous, Nathanaël Gouin, qui sont les interprètes d'hier ou d'aujourd'hui qui vous parlent, qui vous inspirent dans la musique de Beethoven?
Je dirais que je reste assez marqué depuis toujours, mais que ça soit dans Beethoven ou d'autres compositeurs, par Émile Gilels. J'ai réécouté avec émotion aussi des enregistrements de Schnabel qui me laisse vraiment des étoiles dans les yeux. Bon, il y en a, de toute façon, la liste pourrait être interminable, évidemment. Je n'arrêterai pas la liste à ces deux personnes, mais c'est incroyable de se dire que chez le même compositeur, il y a une chaîne avec tant de diversité.
Absolument,
et qu'il
ouais.
y a 100 ans, 50 ans.
Il offre énormément de possibilités d'interprétations différentes, Beethoven, malgré toutes les indications qu'on peut trouver sur la partition.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui est miraculeux, c'est que c'est extrêmement précis comme écriture. Et pourtant, ça laisse toujours la possibilité à trouver des recoins. Alors, bon, évidemment, il faut y passer du temps. Il y a tellement de choses qui ont été enregistrées sur cette musique, mais c'est tellement inouï et génial que la sensation de chercher une forme de vérité dans cette musique-là est absolument infinie. Donc, au piano et à d'autres instruments. Donc, c'est ce qui fait sûrement, c'est peut-être une définition du génie de Beethoven.
C'est une belle définition. On va parler un peu de votre dernier enregistrement, Nathanaël Gouin. Il sort vendredi chez Mirare, comme le disque de Fanny Clamagirand. Et là, vous avez choisi d'insérer entre deux trios de Beethoven, le trio de Korngold, ce compositeur autrichien qui a mené une grande partie de sa carrière à Hollywood, notamment en écrivant pour le cinéma. C'était un enfant prodige. Korngold, il était d'ailleurs bien souvent comparé à Mozart plutôt qu'à Beethoven. Alors pourquoi avoir choisi d'enregistrer ce trio de Korngold? Qu'est-ce qu'il vient faire entre deux trios de Beethoven, Nathanaël Gouin?
Alors, en premier lieu, il y a le chiffre, évidemment, de l'opus 1 qui nous a intéressés. Alors, évidemment, que c'est les premières œuvres, c'est une chose, mais dire voilà, cette œuvre-là est mon opus 1 et c'est celle-là que j'envoie à un éditeur et qui va me représenter, finalement, c'était vraiment ça, faire la démarche d'aller voir un éditeur, lui dire voilà, je voudrais que cette œuvre soit la première de mon catalogue, mm-hmm. même si avant il y a eu des brouillons, des affinis, etc. C'est quelque chose qui nous intéressait, et dans la structure du trio, en plus, avec ces deux trios. Alors, Beethoven, c'est un corpus de trois trios. Mm-hmm. Il y a trois trios opus 1, donc, ce qui est absolument incroyable.
Vous avez supprimé le deuxième pour le remplacer par celui de Korngold.
Alors, on va dire qu'on l'aurait enregistré avec énormément de plaisir. Malheureusement, un disque ne fait que 120 minutes, donc
une prochaine fois.
Et voilà, exactement. C'est celui de Korngold qui s'incruste au milieu. Alors voilà, au-delà du chiffre de l'opus 1, il y a aussi cette esthétique viennoise, la position de Korngold qui quelque part est très nourri de toute cette culture classique, romantique de son pays et qui tend déjà vers d'autres choses, qui semble déjà regarder vers par certains aspects dans sa musique à seconde école viennoise et puis plus tard aussi à Hollywood. Mais cette position très originale nous a beaucoup intéressé. Alors évidemment, quand on pense à un compositeur prodige, Korngold est peut-être un des premiers à 13 ans à créer une œuvre d'une telle complexité, ouais. Maturité,
c'est prodigieux,
c'est,
ouais.
C'est absolument inouï. Mm-hmm. Donc,
comment vous l'avez découvert ce premier trio?
À vrai dire, j'ai le souvenir dans mon enfance. Je rends hommage à un professeur de musique de chambre du Conservatoire Toulouse qui nous avait mis la partition sur un pupitre. Alors des fois, on fait la démarche d'aller chercher des œuvres, mais là il se trouve que c'était un monsieur, si je me souviens bien, Christopher Waltham. Je devais avoir 12-13 ans d'ailleurs, un de mes premiers trio, il nous avait dit, ah bah, jouez ça serait incroyable, vous allez jouer une œuvre de quelqu'un qui l'a composée au même âge que vous la jouez. Je crois peut-être que le passé déforme un peu mes souvenirs, mais je crois que c'était ça et j'ai toujours gardé un souvenir. J'ai gardé la partition évidemment et puis et quand on a eu cette opportunité de commencer à jouer en trio avec Guillaume et Yann, l'idée est venue très naturellement et de coupler ça avec Beethoven, voilà. Et donc après le projet de disque, etc. Vous connaissez la suite.
On va vous écouter, Nathanaël Gouin, dans le premier mouvement de ce trio de Korngold. On reste en ré majeur et c'est interprété par Guillaume Chilem, Yann Levionnois et Nathanaël Gouin, bien sûr. Thank you. Allegro non troppo avec expression. C'était le premier mouvement du trio pour piano, violon et violoncelle en ré majeur d'Erich Wolfgang Korngold, Guillaume Chilem au violon, Yann Levionnois au violoncelle et Nathanaël Gouin au piano.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Il a un petit côté hollywoodien, ce trio de Korngold, vous ne trouvez pas, Fanny Clamagirin?
Oui, tout à fait.
Vous connaissez le concerto, j'imagine.
Oui, je connais bien le concerto.
Vous l'avez joué?
Non, je ne l'ai jamais joué, mais je pense que ça viendra. C'est vrai qu'il y a un tel répertoire pour le violon que c'est pas certain de pouvoir tout jouer dans une vie, mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup, en effet.
Et vous avez choisi de compléter votre enregistrement du concerto de Beethoven avec la musique du compositeur letton Péteris Vasks, toujours vivant d'ailleurs. Moi, c'est une musique que je connais très mal. Merci de nous la faire découvrir. Vous pouvez nous en parler un peu, Fanny Clamagirin, comment vous l'avez découvert, ce compositeur?
Alors en fait, j'ai découvert cette œuvre parce qu'on m'avait demandé pour un concert avec l'orchestre de chambre d'Auvergne. Et dès que je l'ai écouté, en fait, ça a été un coup de cœur absolu pour cette musique. C'est une grande puissance, c'est profondément bouleversant comme écriture, comme atmosphère, et justement, en fait, j'ai voulu coupler cette œuvre, enfin le concerto de Beethoven avec cette œuvre, parce que justement, bon, le concerto de Beethoven, c'est un monument, donc c'était difficile de savoir comment constituer un enregistrement, quelle œuvre
mettre à côté
associer,
de ce monument,
voilà, ouais. Parce qu'il faut que les deux œuvres puissent exister à part entière, mm-hmm. et donc finalement assez spontanément, ce choix s'est imposé à moi, parce que justement c'est une autre époque totalement différente, c'est d'autres codes de composition, donc il n'y a pas de comparaison déjà,
ouais,
voilà,
pas de comparaison possible.
Et voilà, directement. Et pourtant, bien qu'elles soient lointaines au niveau des époques, elles se rejoignent quand même dans leur humanité, justement parce que c'est toujours, avant tout, c'est un homme qui, enfin un homme dans le sens large, c'est une personne qui écrit, qui exprime des sentiments, ce qu'il ressent. Et puis donc ce concerto de Péteris Vasks qui s'appelle donc Talagaïsma, ou lumière lointaine, donc pour qu'on comprenne un petit peu mieux, voilà, va dans la lumière céleste, donc dans un registre très aigu, et je retrouvais cette cette grande pureté et ces sonorités cristallines dans le concerto de Beethoven, qui s'élève beaucoup, et parce qu'en fait, ce concerto de Beethoven, c'est une des rares périodes heureuses de sa vie. Et puis, en même temps, oui, avec une opposition, avec toujours, enfin, la présence du destin, de la fatalité immuable, voilà, qui est beaucoup plus sombre. Donc, chez Beethoven, avec cette ces timbales et quelque chose de, enfin, un poids, enfin, quelque chose qui va plutôt vers la terre et qui est contradictoire avec le chant du violon qui s'élève en permanence. Et puis chez Peteris Vasks, bah, c'est le chaos de la vie humaine, voilà. Et puis lui, la recherche de la spiritualité. Donc il y a vraiment cette ambivalence. Et puis voilà, des atmosphères dans les deux œuvres qui sont incroyables, vraiment à couper le souffle, et une grande émotion, une grande force, et quelque chose qui vous touche. Enfin, et donc moi, personnellement, c'est ce que ça m'a procuré. Donc voilà, j'ai envie de défendre ces œuvres-là et de les proposer. Et puis c'est vrai que justement quand je l'ai joué ce concerto en concert, le public a été complètement emballé.
Et justement, Peteris Vasks disait qu'avec sa musique, il voulait offrir de la nourriture à l'âme. Par quoi elle passe, cette quête spirituelle, dans le travail d'un violoniste, Fanny Clamagiran ?
Oh, bah c'est complexe, c'est difficile. Je pense que on se nourrit de plein de choses. Rien que le travail, la lecture d'une œuvre ou la recherche d'une esthétique, la recherche de la sonorité, de la couleur, c'est déjà un réel bonheur. Ça nous apporte beaucoup. Et puis la rencontre avec les autres musiciens aussi, je pense que ça joue beaucoup. Mmh. Et puis j'imagine aussi que bien sûr on se fait un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, on se construit avec tout ce qu'on côtoie, et enfin au niveau musical, j'entends, et tout ce qu'on peut jouer. Je pense que la diversité des répertoires et des styles, enfin tout se nourrit un peu mutuellement, et donc voilà, on peut s'évader, en fait, voilà. Et dans la musique, on peut aller, au-delà du réel.
ça fait son petit effet, hein. Le troisième mouvement du concerto pour violon et orchestre à cordes de Péteris Vasks, Fanny Clamagiran au violon, l'orchestre de chambre anglais dirigé par Ken David Mazur. Elle est tourmentée cette musique, Nathanaël Gouin, vous ne trouvez pas?
Ah, c'est une intensité, c'est...
C'est fou, hein, c'est fort.
Quelque chose,
hein.
Ouais.
À côté, Beethoven passe pour un compositeur euphorisant, euphorique, joyeux.
Ça dépend lequel, parce que si on mettait la Mer Clavier à côté, ou des choses comme ça, ou la 111. Mais effectivement, les premiers opus qui font objet de nos disques, on est dans un classicisme encore assez mozartien. Quoique le troisième trio, je ne sais pas si c'est celui-là qu'on va entendre, mais le troisième opus 1, qui est un do mineur.
Haydn ne l'aimait pas d'ailleurs.
Ah, oui,
on comprend pourquoi.
Mais nous, on l'aime beaucoup. Mais c'est déjà la facette d'un Beethoven déjà sombre qui est tourmenté, qui veut dire des choses profondes et un petit peu déjà casser des codes. Il y a quelque chose qui est assez, assez inouï, déjà que dans son opus 1, il y a cette facette-là qui apparaît.
C'est déjà
qui
une évolution.
Ouais, mm-hmm.
Quel rapport vous entretenez-vous avec la musique de Beethoven en tant que pianiste? Est-ce qu'il y a des œuvres que vous détestez? C'est une musique qui vous accompagne depuis toujours? Comment vous vous sentez avec ce compositeur?
Alors, c'est d'abord ça a été longtemps, évidemment, un rapport assez effrayé face à un tel géant. On le joue depuis très jeune, en tout cas à la maison, le moment où on le passe sur scène, évidemment, on mesure ce qu'il y a derrière. Mais c'est très important de travailler les derniers opus, même si évidemment jeune, on n'y comprend peut-être pas grand-chose.
Vous les avez travaillés quand, les derniers opus, précisément, vous savez?
Moi, j'ai le souvenir d'avoir joué la 109, 110, je dis bien joué chez moi, mais à l'âge de 16 ans, 17 ans, et de regarder ça avec des yeux écarquillés, et d'être très ému, et puis d'écouter, et puis d'aller voir des concerts, etc. Mais c'est proprement inouï, cette musique, et il y a quelque chose qui échappe toujours un petit peu aujourd'hui. Donc on réfléchit énormément quand on joue une œuvre de Beethoven, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va mettre avec, comment est-ce qu'on va l'aborder, sur quel type d'instrument. Enfin, il y a tellement de questions, il y a quand même un poids de l'histoire inouï, mais quelle musique, et qui continue à parler. Et chaque fois que je fais un concert avec du Beethoven, que ce soit de la musique de chambre ou de la sonate, je suis frappé de voir cette espèce de souffle qui frappe le public à quelque chose comme ça, où les retours après, les discussions qu'on peut avoir après, les gens sont, s'il y en a qui ont la chance de découvrir des fois des œuvres de Beethoven, ils sont toujours frappés par cette modernité, ce côté indémodable de sa musique.
Oui, elle est universelle, cette musique. Pourquoi elle parle autant encore aujourd'hui, Fanny Clamagiran, la musique de Beethoven, selon vous?
Mais je pense que justement c'est parce qu'il y a énormément d'émotions dans son écriture et que chacun peut s'y retrouver. C'est une grande liberté aussi de compréhension et bon, après c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont peut-être très 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 riche, très complexe aussi, donc peut-être dans l'écriture sont moins abordables pour le public, mais je pense qu'il y a une telle grandeur, une telle richesse en fait dans l'écriture que finalement chacun peut y trouver quelque chose qui le touche, que ce soit dans l'émotion, dans la tendresse, dans l'intensité ou dans quelque chose, voilà, en fonction des opus et du moment de l'écriture, ou quelque chose de plus léger, si on peut dire.
C'est parfait, c'est un compositeur parfait pour une première approche de la musique classique, on pourrait dire.
Moi je pense que oui, parce que justement, il y a le côté très classique, il y a le côté un peu romantique aussi. Donc finalement, toutes les émotions se mélangent, se trouvent. Et oui, je crois que c'est pas mal.
Nathanaël Gouin, on va parler un peu de votre programme de la folle journée de Nantes. Vous allez jouer beaucoup de transcriptions. J'ai vu la transcription de la 9e symphonie, la reconstitution de son tout premier concerto pour piano. C'est bien ça, une œuvre de jeunesse?
Oui, qu'on appelle le concerto zéro.
Le concerto zéro, voilà. Exactement. Ça reste encore du Beethoven, ses arrangements, ses adaptations, ses reconstitutions, ou c'est un peu plus éloigné de sa musique?
Alors, La 9e symphonie de Beethoven transcrite par Liszt, j'en laisserai le public juge, parce que là, il y a vraiment le filtre de Liszt qui passe par là. Et puis, ça reste un orchestre immense, confiné à 10 doigts, donc c'est évidemment quelque chose de très original. Mais le concerto zéro, vraiment, même s'il y a une reconstitution et qu'il y a un peu un travail de puzzle, ce qui n'était pas complètement fini, on a quand même tout le matériau qui vient vraiment du très très jeune Beethoven. Et c'est très très émouvant de cerner un peu quel lien il avait avec l'instrument et qu'est-ce qu'il envisageait déjà pour s'affranchir un peu du code classique.
Alors comment il s'affranchit du code classique, vous qui le jouez et qui le connaissez de l'intérieur, ce concerto?
Il y a quelque chose où c'est dans l'énergie, mais il y a quelque chose de très... il prend des formes évidemment qui sont très usitées. Il prend un rondo par exemple pour le troisième mouvement du concerto zéro, mais il part dans certains recoins avec des rythmes, une manière de s'en affranchir avec une grande diversité, toujours en variant énormément avec... une fougue de jeune homme qui est assez frappante, je trouve, qu'on retrouve peut-être moins dans le premier concerto. Dans le deuxième, on sent c'est peut-être pas qu'il a envie de prouver des choses, mais qu'il veut s'amuser avec l'instrument et déjà essayer de l'englober et de trouver des choses tout de suite. Donc il y a beaucoup de fulgurance dans ce concerto, mais déjà avec une énergie bien beethovenienne. C'est ça qui est intéressant à retrouver.
Thank you.
Allegro initial, le premier mouvement du trio en mi bémol majeur de Beethoven, Guillaume Schillem au violon, Yann Lovionnois au violoncelle et Nathanaël Gouin au piano.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Et le Van Beethoven en compagnie de Fanny Clamagiran et Nathanaël Gouin. Dites-moi tous les deux, ce serait pas la première fois que vous enregistrez la musique de Beethoven par hasard ?
C'est
une première.
Ça se fête. Comment on sait que c'est le bon moment pour enregistrer Beethoven ? On se sent prêt ?
Je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense qu'en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est un heureux hasard que ce soit le 250e anniversaire de sa naissance. Et voilà, je pense qu'il ne faut peut-être pas... C'est vrai que Beethoven, c'est une grande figure. C'est impressionnant pour chaque musicien. Donc, il faut quand même se jeter à l'eau et pas se mettre trop de barrières. Donc, voilà, moi, je l'ai pris de ce côté-là.
Vous avez déjà joué ensemble ?
Non, jamais.
Jamais.
Les sonates
jamais.
Pour violon et piano,
non, plus, non.
Ça vous intéresse
faire,
tous les deux peut-être.
Hein, voilà.
Quand est-ce qu'on peut vous retrouver à la folle journée de Nantes, Nathanaël Gouin ? Vous commencez demain soir, c'est ça ? Et après, on vous écoute tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Jusqu'à dimanche.
Jusqu'à dimanche.
On se retrouve dimanche. Oui,
d'accord.
C'est mieux que moi.
Non, on vous retrouve demain soir à 21h30, jeudi à 14h30, jeudi à nouveau à 17h45, vendredi à 11h, vendredi à nouveau à 18h, à 19h30 et samedi à 22h. Voilà, et dimanche à 14h. C'est un gros programme. Et Fanny Clamagiran, vous allez jouer le concerto pour violon de Beethoven, c'est ça ?
Oui, alors je vais jouer le concerto. Concerto dimanche avec l'orchestre de Pau. Et puis je vais jouer plusieurs sonates, 5, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7 et numéro 8, avec David Bismuth. Vendredi, on aura deux concerts vendredi et un concert samedi. Et puis je serai aussi au concert de clôture qui est diffusé en direct sur Arte, dans le premier mouvement du printemps de Beethoven avec Tanguy de Villiencourt.
Avec quelques concerts diffusés en direct également sur France Musique.
Thank you.
Un extrait du final du troisième trio en ut mineur de Beethoven, joué à l'instant par Guillaume Schillem au violon, Yann Levionnois au violoncelle et Nathanaël Gouin au piano. Merci Fanny Clamagirand, merci Nathanaël Gouin d'être passé nous voir. Quels sont les projets en dehors de la folle journée dans les mois à venir?
Du Beethoven.
Beaucoup de Beethoven. Mais encore.
Alors, je serai à Toulon le 8 février. C'est la folle nuit, avec deux sonates de Beethoven, la cinquième et la neuvième, donc le printemps et la Kreutzer, avec Igor Tchetouyev au piano. Et puis après le concerto de Sibelius avec le LPO. L'orchestre de Londres. Et puis, d'autres projets Beethoven plus tard.
Et vous, Nathanaël, en deux mots?
Alors, en deux mots, salle Gaveau le 14 mars, une intégrale des années de pèlerinage de Liszt. Et puis un disque Bizet qui est en instance de sortie, dans quelques mois. Voilà.
Merci à tous les deux d'être passés nous voir sur France Musique cet après-midi. Merci à toute l'équipe du Van Beethoven, Cécile Bonnet des Claustres, Stéphane Poitvin et Bruno Rioumaillard. Excellente fin de journée à toutes et à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.